à votre santé. Eh bien, voici la 125e émission de l'Association citoyenne pour un centre de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM. Je suis donc à l'écoute aujourd'hui, Hélène Mazur. Évidemment, je vous fais tous mes voeux de santé. Je vous le dis à chaque fois, à votre santé. Mais surtout, c'est que il suffit pas de faire des voeux. Il faut aujourd'hui agir concrètement pour sa santé. Et nous allons en parler tout à l'heure. Bonjour Christian.
Christian Max, donc je vous souhaite aussi de ne pas tomber malade trop tôt, quoi.
Il faut attendre que notre système de santé soit au point.
Oui, qu'on ait enfin retrouvé des médecins, donc dans 10 ans.
Voilà. Bon, nous, on en a retrouvé, vous vous souvenez, chers auditrices, auditeurs. Alors aujourd'hui, avant de commencer, on voulait juste vous dire que, eh bien, nous, on est pour le respect aux personnes, l'écoute et la discussion avec des arguments. Parce que quand on en vient au mot grossier, eh bien, c'est qu'on manque d'arguments. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, David, Christian ?
J'en pense que c'est pas en insultant les gens qu'on arrive à les convaincre qu'ils sont dans l'erreur.
Voilà, bon, vous avez peut-être compris d'où vient notre réaction. On n'en dira pas plus. Et moi, j'avais envie de mettre un petit peu notre émission sous le signe de la prévention. Et vous allez comprendre pourquoi, suite à ce qu'on va dire. Alors, comme d'habitude, on va reprendre cette fois avec, forcément, nous avons eu 2 semaines d'interruption. La pandémie s'est répandue. Où en sommes-nous, Christian ?
Eh bien oui, donc c'est ce qu'on appelle les nouvelles du front. Alors, je précise que les chiffres que je vais citer, je les ai relevés sur Covid Tracker le 5 janvier.
Bon, c'est frais.
C'est frais. Et donc, le taux d'incidence nationale, il est de 1699. Le pire étant à Paris, 2001. Le taux de reproduction, par contre, il est de 1,09. Je rappelle qu'au-delà de 1, l'épidémie progresse. En dessous de 1, elle régresse. Donc, on n'est pas loin du point d'équilibre, quoi. La tension hospitalière nationale est de 71%. On a 3665 personnes en soins critiques et une moyenne de 189 décès par jour la semaine dernière.
D'accord. Alors, si mes souvenirs sont bons, quand la crise était au pire, le nombre de décès était faramineux.
Oui. Et le taux de reproduction aussi, il était beaucoup plus élevé. Là,
oui.
Il est moins élevé qu'il y a 15 jours quand on a cessé nos émissions provisoirement.
Voilà. Et alors, tu as des chiffres pour l'Oise ?
Alors, l'Oise, ben, pour une fois, on est des bons élèves, si j'ose dire, parce que le taux d'incidence est à 615.
Mm-hmm.
Hein, dans la Somme et dans l'Aisne, c'est encore moins. Par contre, la tension hospitalière, ben, toujours même problème, on est à 103%, ce qui traduit encore une fois le sous-équipement du département.
Eh oui. Et avec la fermeture récente, nous allons revenir là-dessus, des urgences de Senlis, d'il y a un an ou deux, de la maternité de Creil, etc., etc.
Alors, on a 287 hospitalisés, 37 personnes en réanimation et une moyenne de 2 décès quotidiens.
Il me semble que c'était le chiffre.
Ça n'a pas changé.
Voilà.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Omicron représente 40% des contaminations. Et Delta, on en est toujours, c'est toujours majoritaire, on est à 60%. Et celui-là, c'est le plus dangereux. Hein.
Oui, on s'en souvient.
Ouais. Alors, et par âge, on s'aperçoit que les mauvais élèves, si j'ose dire, c'est les 20-29 ans, puisqu'ils sont à 1103 de taux d'incidence. Après, 30-39, puis 40-49, puis 10-19, ça descend. Quoi.
Donc les jeunes,
ce
les
sont
ados,
les jeunes
que
les
plus
frappés.
Les plus frappés, tu dis ?
Oui, les
jeunes gens, mais oui. Les enfants collégiens et adolescents, ils ne sont pas autant frappés que ça, puisqu'on n'arrête pas de dire que c'est eux qui
c'est,
propagent.
Non, eux, c'est 784. Donc, et je rappelle, les 20-29, c'est 1103.
Voilà, oui. Mm. Oui, oui. Bon, là, on voit bien que c'est en rapport avec le taux de vaccination, quand même.
Voilà, oui.
Oui, oui. D'accord. Et tu as d'autres informations sur la pandémie ?
Sur la vaccination, donc oui. 78,5% des Français ont au moins une dose.
D'accord.
76,8% en toutes les doses, c'est-à-dire les deux ou les une, ou, etc.
Oui, oui, oui.
Et 33% ont la troisième.
D'accord.
Dans ceux qui peuvent l'avoir.
Hein. Eh oui, eh oui.
Oui. Mmh. Les moins vaccinés, c'est la tranche des 12-17 ans, mais c'est normal, ça vient de commencer. Mais quand je dis les moins, ils sont quand même à 78% de vaccinés complètement.
C'est quand même énorme, hein, moi je trouve, puisque la moyenne, c'est 78% une première dose. Donc, d'accord. Bon, bah, donc, dans un pays vacciné comme le nôtre, malgré tout, le virus se propage.
Eh oui, il ne nous fait pas de cadeau.
Voilà. Donc, il faut se rappeler que le vaccin, en fait, protège contre les formes les plus graves, c'est ça ?
Oui.
Donc, en particulier l'hospitalisation, mais pas contre la propagation du virus. D'ailleurs, moi, dans ma famille, des personnes vaccinées trois fois, avec un masque tout le temps, qui se lavent les mains tout le temps, etc., qui font tous les gestes barrières, eh bien, il y en a un qui a été touché, et hop, par ricochet, le reste du foyer. Donc, ils ont été testés positifs avec, des symptômes, on dira, de grippe, quoi. Hein, voilà, quand même, hein, avec des symptômes. Donc, je pense qu'il faut faire attention et ne pas dire que c'est à cause des non-vaccinés que le virus se propage. Hein. Voilà, après, on va parler des hospitalisations, mais... c'est surtout la mutation des virus qui sont de plus en plus propagateurs, hein, si j'ose dire. Voilà. Tu as des éléments sur l'origine d'Omicron ?
On ne sait pas trop d'où ça vient, évidemment, comme toujours. C'est très difficile à trouver, mais enfin, ça semblerait pas venir de Chine pour une fois.
Alors moi, ce que j'ai entendu récemment, c'est que donc des chercheurs essayent de trouver d'où vient cette mutation, et une des hypothèses, c'est que en fait, c'est passé de l'homme à un animal sans doute domestique, donc effectivement pas un animal chinois, hein, domestique, et que ça s'est repropagé à l'homme. Voilà. Et donc, que là, il y a un travail de recherche à faire intense. Parce que si ça se fait comme ça, pourquoi ça ne se reproduirait pas ? Et de quelle façon ? Puisqu'on peut craindre toute forme. C'est pas parce que celui-là semble moins dangereux que le suivant ne le sera pas. Et moi, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que le chercheur qui parlait disait, écoutez, malheureusement, nous n'avons pas les crédits nécessaires, nous n'avons pas l'argent nécessaire pour faire cette recherche, elle a été arrêtée. Donc, les informations qu'ils avaient venaient de l'étranger, d'autres labos. Bravo la France pour la recherche fondamentale. Il vaudrait mieux quand même essayer de trouver les sources pour corriger, non, pour empêcher, au lieu de laisser faire, hein, si j'ose dire. Donc, voilà, moi, ça, c'est mon point de vue là-dessus. Alors, on a eu quand même quelques informations locales, donc qui datent un peu d'avant les vacances scolaires, au mois de décembre, sur comment ça se passait dans notre secteur, au niveau éducation. On vous parlera de la rentrée scolaire une fois qu'on aura eu plus d'informations de cette rentrée. Et en particulier, donc, sur le territoire de notre communauté de communes, donc, le maire de Frénois-la-Rivière était très en colère parce qu'il y avait... Donc, vous savez que les communes rurales, pour la question scolaire, sont regroupées, ce qu'on appelle les regroupements pédagogiques. Frénois est regroupé avec Feigneux et Russie-Bémont. Et il se trouve que... une classe maternelle, il y avait une dizaine de cas dans une classe maternelle de Feigneux, aussi bien adultes qu'enfants. L'éducation nationale, donc je ne sais pas si c'est l'inspecteur ou l'académie, font fermer cette classe, mais ils ont complètement ignoré la situation réelle qui est celle d'un regroupement. Et le maire explique, les enfants, ils vont tous à la même cantine, ils prennent tous le même car scolaire et ils vont tous au même ils fréquentent tous le même périscolaire. Donc, il y a eu un brassage. Et donc, lui, il pensait qu'il fallait fermer les trois classes du regroupement, craignant un cluster juste avant les vacances de Noël et regroupements familiaux. Ça se comprenait. Voilà. Donc, un problème d'incohérence qui, comme une fois, vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, nous, on est pour l'écoute. Et il me semble bien que ça manque dans l'éducation nationale.
C'est pas nouveau, hélas.
Moi, j'ai entendu dire que les enseignants réclamaient des masques FFP2, donc c'est ceux qui protègent le mieux. Évidemment, quand on voit l'impact qu'il peut y avoir dans une classe après toutes les familles touchées, dès que vous êtes cas contact, il faut être isolé, etc., etc., ça a un impact énorme. Donc, on nous a cité qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans l'Oise, au collège La Fontaine des Prés de Senlis, il y avait 100 de cas positifs, ce qui est énorme.
Oui, c'est un collège de 600 élèves environ.
Bon, bah, vous vous rendez compte, hein. C'est là qu'on se dit qu'on trouve que l'éducation nationale est mal lotie au niveau de la protection sanitaire, qu'on n'écoute pas les gens du terrain et que malheureusement, il n'y a plus de médecine scolaire parce que les tests, on demande aux familles d'aller tester, hein, faire tester leurs enfants. Donc tout le monde a vu les colonnes, les files d'attente devant les labos, les pharmacies, c'est une catastrophe. Alors qu'il y aurait eu un service médical dans chaque établissement, comme il y avait autrefois, quand nous étions enfants. Et oui, voilà. Donc ça, pour moi, ça fait partie de la prévention. Tu crois pas, Christian ?
Oui, tout à fait, oui. Moi, ce que je constate, c'est que depuis qu'on a ce ministre, il n'y a jamais eu autant de démissions et de mises en disponibilité chez les enseignants. Donc c'est qu'il y a vraiment, ça va mal.
Oui.
Et c'est pas seulement les questions de santé, c'est aussi les questions de santé des collègues.
Oui.
En dehors de l'épidémie.
Ah oui. Donc ce qu'on leur fait endurer en conditions de travail.
Oui, en conditions de travail.
Et sens de leur travail. Moi, j'entends ça beaucoup, le sens du travail, comme les soignants.
Ça devient des gardiens, comme des gardiens de square ou alors des remplisseurs de dossiers, quoi. Mais enseignants, par contre, bof.
Oui, bon, c'est pas drôle, mais on cherchera des informations auprès de nos collègues, en tous les cas,
oui,
sur
des
l'impact.
Exemples précis. Oui.
Voilà, voilà. On essaiera d'avoir des témoignages. Alors, il y a autre chose quand même au niveau local qui s'est passé au mois de décembre, toujours avant les fêtes de fin d'année. C'est qu'il y a eu, vous vous souvenez, nous avions annoncé la fermeture des urgences de Senlis. Eh bien, il y a eu une mobilisation citoyenne. Hein, il y a eu, à l'appel du comité de défense de l'hôpital, ce sont des personnels, des usagers, etc., une centaine de personnes qui ont manifesté, je crois que c'était le 11 décembre, en tout cas, c'était dans ces dates-là, avec le soutien d'élus, évidemment, d'élus locaux, qui réclament l'ouverture des urgences avec les moyens appropriés. Or, nous avons lu récemment une interview du directeur de l'ARS. Tu es au courant ?
Agence régionale de santé. Des Hauts-de-France.
Voilà. Tu es au courant de ce qu'il a dit, ce directeur, à propos des urgences de Senlis ?
Qu'il est bien désolé, qu'il va essayer de trouver du monde pour les rouvrir, mais qui sait pas quand.
Voilà. Alors moi, j'ai vu le mot qu'il espérait. Recruter, qu'il espérait. Et alors, quand j'ai lu, bon, vous m'excuserez, ce n'est que dans la presse, je n'ai pas été présente à sa déclaration. Comment ? En réorganisant les urgences. Je ne sais pas ce qu'on peut réorganiser quand il manque le personnel. Il manque. Je ne sais pas comment on peut faire mieux. Un projet immobilier, donc là, j'ignore de quoi il s'agit. Et le fait de réinvestir la rotonde de Creil. Excusez-moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais en tous les cas, il pensait qu'avec ces mesures, il allait créer une nouvelle attractivité aux médecins. Et faire que le SMUR pallie finalement... qu'il aille de l'hôpital de Senlis vers celui de Creil, pour résoudre les problèmes d'hospitalisation. C'est
sûr que c'est en faisant voir du pays aux malades qu'on va régler tous les problèmes.
Voilà, non, c'est terrible, hein, terrible. C'est vraiment des mesures. Donc, moi, je comprends très bien que donc la semaine, donc cette semaine qui vient, il y a la mobilisation le 11 janvier de tous les personnels soignants. Et des usagers, ils font appel aux usagers parce que ça devient intenable. Hein, pour à la fois, alors je vous précise, hein, c'est à la fois ceux des hôpitaux, des établissements sanitaires, médico-sociaux, qu'ils soient privés, publics, associatifs, etc. Ils dénoncent tous la dégradation des conditions de travail des personnels, les difficultés d'accueil et de prise en charge dans la dignité pour l'ensemble de la population. Et malgré le dévouement des personnels, la situation s'aggrave avec la pandémie, surcroît d'activités à gérer, tout le monde comprend, et évidemment, en plus du suivi quotidien et classique des résidents et patients qui sont déjà dans les établissements. Donc, c'est ce qu'on appelle après la maltraitance des malades, parce que ils ne peuvent pas être partout. Et donc, ils exigent l'ouverture de véritables négociations sur l'avenir de l'hôpital public, des établissements de santé, d'action sociale, avec le Premier ministre et le Président de la République. Et ils ont des revendications très précises. Vous doutez qu'ils demandent des moyens financiers, mais aussi la reconnaissance de leur métier, de la revalorisation de leur carrière et surtout le recrutement immédiat de centaines de milliers de professionnels supplémentaires. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce que nous avait dit le docteur Loïc Penn quand on lui avait dit « Est-ce qu'il y a des solutions immédiates ?» Et il nous en avait cité, justement.
Mais j'invite les auditeurs à se reporter à ces émissions qui sont toujours disponibles en podcast.
Voilà. Et moi, je me souviens très bien qu'il avait dit qu'on pouvait immédiatement recruter des agents hospitaliers pour décharger le personnel de tâches qui ne sont pas des tâches de soins. Voilà, parce qu'à force de supprimer et supprimer, voilà où on les emmène. Donc, c'était des quelques informations locales dont nous voulions vous parler. On regrette quand même qu'il y ait un mauvais cadeau de Noël de notre gouvernement avec le forfait pour les urgences, hein, le forfait de prise en charge des urgences. Hein, tu as entendu ça?
Oui, comme si les patients qui étaient aux urgences le faisaient exprès, quoi.
Donc, il y a deux choses là-dessus. Ceux qui n'ont pas de mutuelle, comment ça va être pris en charge? Ils vont forcément payer quelque chose. Et c'est évidemment les plus précaires qui n'ont pas de mutuelle. Hop, on prend encore dans la poche des plus pauvres. Et deuxièmement, comme tu dis, Christian, si les gens vont aux urgences sans être hospitalisés, ensuite, c'est bien parce qu'il n'y a pas les médecins qu'il faut localement. Et j'ajoute, on ne sait pas d'avance quand on va aux urgences, si on va être hospitalisé après ou pas. Quand on fait une chute grave, si on a une fracture, on est hospitalisé. Ou si on tombe dans les pommes, enfin bref. Donc, je trouve ça vraiment très cavalier et un manque de respect, franchement, pour les patients qui vont aux urgences. Donc, voilà, chères auditrices, auditeurs, c'était pas une bonne nouvelle, celle-là. Mais bon, on tâchera de venir avec d'autres bonnes nouvelles. Il faut quand même, redire à chaque fois la vérité. Nous vous retrouvons, comme toujours, le samedi à 10h30, le mardi à 13h, jeudi 16h, et bien entendu en podcast. Au revoir et merci de votre écoute.
Au revoir.